At the Bank of Santander, they've created Stan, a smart bot that can predict the future of remortgaging.
I read Stan. Will my mortgage rate go up?
1955 was the last time Newcastle won the cup.
No, and try not to mumble.
Playing, let's get ready to rumble.
Oh.
Meanwhile, at Santander, they can't predict your future, but they'll help secure it with great mortgage rates fixed for up to 10 years. See what's possible at Santander.
Early repayment charges apply. Lending subject to status and criteria. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.
Vous écoutez
RMC. RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il faudrait pas que le tout s'accapare dans nos têtes.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois.
Jusqu'à minuit,
c'est l'after foot.
Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là, bien sûr, avec Jérôme Rotten, avec Daniel Riolo. Sachez que tout à l'heure, Julien Cazard nous rejoindra, bien sûr. Fred Hermel, hein, également avec nous, dans quelques minutes, pour un débrief complet de la Super Coupe d'Espagne. Les deux matchs qu'on n'a pas vus. Donc, le Real hier qui s'est qualifié face à Valence et l'Atlético qui, ce soir.
Bah, parce que. Ah, parce qu'on n'a pas mis le blé, c'est ça, pour acheter les droits.
Personne ne l'a dit, puisque c'était pas diffusé.
Je t'ai dit.
Et donc, le Real, qui affrontera l'Atlético en finale.
Indéfini en France, quoi.
Il n'y a aucun diffuseur qui.
Voilà,
c'est bizarre d'ailleurs. Ou alors peut-être c'était trop cher.
Bizarre. Bah, à mon avis, c'était trop cher.
Tu as acheté des pour chez toi. Tu faisais payer l'entrée.
Non,
tu faisais une gif à la maison.
Mon fils ne s'intéresse pas.
Il ne voulait pas.
Foot espagnol. Non.
Ah, d'accord. Okay.
Non.
Bon.
C'est le meilleur, le foot espagnol.
Oui, mais bon, écoute, il faut déjà l'habituer au foot français.
Voilà.
Partir sur des bases solides.
Tu vas par étapes, tu as raison. Alors, on voulait parler des ambitions de Rennes. Parce que. Rennes vient un peu caché, je dois dire, sur cette deuxième partie de saison, pour l'instant. Alors qu'on peut quand même avoir le sentiment raisonnable qu'ils peuvent peut-être se dire, tiens, et le podium, et si c'était pour nous qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, supporters rennais, on vous attend en tous les cas. Est-ce qu'il ne faudrait pas que le patron rennais sorte du bois, ou bien son coach, pour nous dire ce qu'il va le faire, parce qu'ils en ont les capacités.
Bon, déjà, faut dire.
Plus de Coupe d'Europe, plus de Coupe de la Ligue.
Demain soir, on a une vraie très belle affiche de notre championnat. Je ne sais pas ce que ça donnera sur le terrain, mais en tout cas, c'est plein de promesses. Et effectivement, cette affiche, elle oppose un club qui, clairement, l'a dit dès le début, même quand ça n'allait pas bien, et ça correspond quand même à l'ADN du club qui n'est pas de se cacher. Donc, Marseille. Rapidement, Villas-Boas a dit nous, on est là pour jouer le podium. Et d'ailleurs, ils y sont et ils vont jouer jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'en face, Rennes avance un peu caché. Ça correspond peut-être également plus à l'ADN du club, qui n'a jamais été véritablement de se mettre en avant et qui n'a pas toujours eu les moyens de le faire. Mais qui, cette année, même s'il y a eu une période très compliquée à l'automne, dont on pourra reparler après, se retrouve à la trêve, et donc au moment de reprendre le championnat, dans une position hyper favorable. Est-ce que je sais pas ce qu'en pense Jérôme, je pense qu'ils veulent jouer le podium. Moi, j'en suis archi convaincu. Moi, je pense qu'ils ne le disent pas. Et après tout, c'est un choix de communication respectable. Ils n'ont pas à se mettre en avant s'ils ne le sentent pas. Et c'est vrai qu'ils ont connu des déboires, notamment en Coupe d'Europe, et ils ont une période délicate. Donc, ils préfèrent avancer caché. Mais je crois qu'ils n'ont. Ils n'ont rien à perdre à tenter de jouer le podium. Mais je pense même qu'ils en ont les moyens dans ce championnat très ouvert. Le match de demain sera-t-il un indicateur? Oui, probablement, mais au-delà de ce match, je pense que ce ne sera pas mort pour eux. Ils ont ça à jouer principalement, et moi je les crois, en tout cas, avec. Et je le sais, ils ont l'intention d'aller jusqu'au bout et de jouer le podium. Mmh. Ils ne sont pas là pour jouer l'Europa League cette année, Rennes, ils sont là pour jouer le podium.
Jérôme, est-ce que tu es d'accord?
Écoute, j'ai tellement été déçu de Rennes sur la campagne européenne que je vais être un peu plus vigilant parce que il y a des signes qui trompent. Alors je veux bien qu'ils aient des circonstances atténuantes avec une équipe qui a beaucoup évolué par rapport à l'année dernière, avec des méformes en début de saison, des joueurs qui sont un peu pris pour d'autres avec la fin de saison dernière, cette victoire en Coupe de France, le fait d'avoir ramené un trophée à Rennes, et je pense qu'ils se sont vus très beaux pour la plupart, et des joueurs cadres, et c'est pour ça que Julien Stéphan a été en difficulté aussi, parce qu'il a pas retrouvé le niveau de ses joueurs.
Et là, c'est la période, là, t'es en train de parler, t'as raison.
N'oublie pas qu'il y a 6 joueurs cadres qui sont partis de Rennes, hein, quand même.
Oui, période, ils en ont gardé quand même.
C'est la période floue.
Dont Benjamin André, meilleur Rennais l'an dernier.
C'est la période floue. Ouais, c'est la période où ils ont tangué, ils savaient plus trop où ils allaient, les résultats étaient pas favorables alors qu'ils jouaient pas plus mal ou moins bien qu'avant. Les résultats étaient très contraires, et je peux même te dire que Julien Stéphan a flippé très très fort durant cette période où il a mal pris la phrase de Sylvain Armand, où il était
mais c'est normal
il y avait une vraie panique au club, mais je crois que le président a resserré les boulons partout et a dit écoutez, on garde le cap, il y a pas de raison qu'on s'affole, alors que il y en avait quand même certaines de s'affoler.
Le cap
mais
il a dit on garde le cap, heureusement que les résultats sont revenus, parce que je pense que le cap il l'aurait pas gardé longtemps.
Non mais d'y croire tout le temps jusqu'à la trêve, et comme dans la Ligue, en plus, tu fais une série de 2-3 bons résultats, tu te redresses immédiatement. Il se retrouve troisième avec un match en moins. Comment veux-tu qu'il n'y croit pas maintenant ?
Mais c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir dans l'organigramme du club des anciens joueurs, des joueurs qui ont connu aussi le terrain. Je pense que Sylvain Armand, c'est pas parce que je connais bien Sylvain et qu'on a joué beaucoup d'années ensemble, mais
il a quand même connu des moments et de joie et de crise.
Exactement.
Beaucoup de choses dans sa carrière.
Je pense que lui a été un élément très important dans la tête du président, mais même par rapport à Julien.
Julien Stéphan l'a peut-être pas complètement compris.
Non, il l'a pas compris. Puis après, il y a eu des explications, bien sûr. Absolument. Mais je pense que ça sert dans ces périodes-là compliquées.
C'est vrai.
Moi, j'ai beaucoup échangé avec Sylvain sur les matchs que j'ai commentés en Europa League, où ils attendaient beaucoup mieux de leur équipe, bien sûr. Rennes est passé vraiment une campagne horrible pour eux, européenne. Et c'est pour ça que je suis un peu plus vigilant, parce que je me dis que ces joueurs sont les mêmes, même si ils ont évolué, ils sont à un meilleur niveau aujourd'hui. Il suffit un petit grain de sable dans la machine là, et puis après ça peut dérailler.
Il y a eu l'épisode Grenier aussi quand même.
Ouais, il y a eu l'épisode
ce
Grenier.
Genre de choses dans investir, ça.
Moi, il y a un autre élément quand même qui, à mon avis.
Et puis il y a des équipes. Attends, juste pour finir Gilbert, mais tu me dis pour viser le podium, bien sûr que de toute façon, quand t'es à la mi-saison et que t'es troisième du championnat, bien sûr que tu vises le podium, avec tu vises le plus haut possible avec un match en moins. Maintenant,
un match qui peut te permettre sur Lille. De prendre 5
points.
Dire 2 plus 3,
mais il y a un truc à Rennes, c'est qu'il faut tuer le Mistigri. C'est-à-dire qu'ils sont maudits.
Bah, le Mistigri, ils l'ont un peu tué l'année dernière.
De leur vie, ils n'ont jamais terminé sur le podium. Ils ont fait 4e sous Le Guen et Bologna.
Si derrière la Coupe de France.
Rappelez-vous la Schkumoun Fauvergue.
Oui, mais si derrière la Coupe de France. Si derrière la Coupe de France, ils attrapent un podium, il faudra quand même dire qu'ils ont bien fait enfin de nommer un président qui connaît le foot. Avec en plus des cadres comme Sylvain Armand qui connaît le foot. Un entraîneur qui est un jeune entraîneur.
Il va pas parler du Barca, on est d'accord.
Qui est un jeune entraîneur qui a eu besoin d'être épaulé dans la période très difficile et qui a ressorti la tête de l'eau. Bah, ça sera quand même une bonne période, même si on n'oubliera pas la période Coupe Europa League qui a été catastrophique. Mais bon, si au final ils prennent le podium, qu'est-ce que tu veux dire?
Bah oui, ils gagnent pas au change, parce que tu peux pas oublier la mauvaise campagne.
Ça met un bon pansement, ça.
Mais mais après, il y a un truc aussi qui va pour Rennes. Là, on parle du sportif. Il y a aussi l'engouement dans cette ville, dans ce stade. Vraiment, il y a une ambiance fabuleuse à Rennes. Et ça, je pense que, mine de rien, ça peut servir pour aller arracher des victoires à domicile quand t'es même en difficulté, quand t'as une ambiance qui est spéciale. Il s'est créé quelque chose l'année dernière avec cette victoire en Coupe de France. Donc, ça peut jouer pour Rennes. Mais, pour moi, il y a plus fort. Lille est plus fort que Rennes pour viser le podium.
Guillaume est là, supporter rennais, Guillaume ?
L'OM. On va dire que mon deuxième club préféré, c'est Rennes en France. Donc ça
Pourquoi ?
Tu te fais ton petit match demain soir, alors ?
J'ai un de mes meilleurs amis qui est rennais et avec qui on en discute beaucoup.
Donc il te bassine avec Rennes, donc du coup t'es un peu, tu l'as pris en affection ce club quoi.
Non, c'est moi qui le bassine souvent avec Rennes parce que justement il est toujours en train de dire assez bien on est devant Nantes, assez bien on est devant Montpellier, etc. Je lui dis maintenant que ton club évolue et qu'il y a eu une petite mise au pot de leur actionnaire principal l'année dernière, c'est qu'il faut qu'ils voient plus haut et justement maintenant. Faut qu'ils arrêtent de me parler de Nantes, Montpellier, Saint-Etienne, etc. et qu'ils sont au-dessus de ces clubs-là.
Oui, mais je crois qu'il n'y a plus de primes quand t'es premier club breton comme c'était le cas à l'époque. Hein.
Oui, mais de toute façon, la Bretagne, c'est un vrai club de foot, c'est un vrai endroit de football. On le voit très bien avec les équipe en national, il y a beaucoup de clubs bretons comme Vitré et autres, donc c'est vraiment une terre de football, contrairement à d'autres terres.
Dis-moi, donc toi le supporter de l'OM, tu vas lui dire, attends, la deuxième place, restez tranquille, de toute façon elle est pour Marseille, c'est ça?
J'étais un des rares qui espérait beaucoup. Déjà l'année dernière, je pensais que l'OM avait vraiment un bel effectif. Il fallait juste que quelqu'un, un maître d'œuvre, se les mette en route. Donc, on a changé de maître d'œuvre, donc ça se passe mieux. Après, le Rennes, c'est une belle équipe. Hein. Ils ont changé de président, comme le disait Daniel à l'instant. Ils ont fait une ou deux erreurs, je pense, de recrutement. Ils n'ont pas pris des joueurs qui étaient parfaitement prêts pour enchaîner par rapport à leur belle saison de l'année dernière. Ils se sont débarrassés de André, de Ben Arfa ou de Sarr sur le côté, et après ils ont recruté des joueurs qui étaient en devenir, en faisant monter pas mal de jeunes aussi. Kamavinga surnage au milieu de terrain, qui leur fait du bien, ce qui leur permet d'être plus haut au niveau du classement. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est encore en rodage. Par contre, l'attitude de Villas-Boas de mettre de côté justement Amavi et Camara sur le dernier match à Trélissac pour qu'ils évitent de prendre un jaune, il y a juste eu la petite Annie Croche-Sakai qui prend deux jaunes bêtes en 3 minutes. Mais l'objectif principal de la semaine, c'était évidemment ce match-là. Donc je pense qu'on est tout à fait prêt. Oui, ça va être un super match demain soir. Hein.
En tout cas, c'est vrai que c'est un match qui est... Alors bien sûr qu'il est important pour Rennes, parce qu'ils peuvent faire un petit écart avec les équipes qui sont derrière, et surtout se rapprocher de Marseille. Mais si Marseille venait à gagner, là il y a un vrai écart de fait. Hein. Tu mets un candidat direct à la Ligue des Champions à 8 points. Ouais, ça fait ça. Il y a 5 points, ça ferait 8 points, même s'ils ont un match de retard. Et le match de retard, il faut le gagner aussi. Mmh. Je pense que là, Marseille ferait un grand pas pour confirmer après à domicile. Donc, non, c'est une bonne reprise pour nous en Ligue 1 demain.
Merci Guillaume. Tiens, Jean-Christophe, lui, est supporter Rennais. Salut Jean-Christophe.
Salut la sœur.
Tiens, Daniel disait tout à l'heure, ils ont bien fait de prendre un président qui connaît le foot. Tu sais que dans l'after, on a quelques archives. Donc on va quand même te rappeler ce qu'il y avait comme président avant Rennes. Tiens, par exemple, il y en a un.
Arrête, après ils vont se dire qu'on se moque tout le temps d'eux.
Ouais, on peut chambrer, non ?
Les supporters de Rennes sont parmi...
Oui, ils sont susceptibles.
Ils sont dans le top 3 des plus chouineurs de Ligue 1.
Oui, donc attends,
oh là 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 là. Ah bon ? Venant de Daniel Riolo, c'est marrant d'entendre ça.
Pourquoi tu me dis ça ?
Parce que t'es susceptible.
Daniel Riolo, il chouine jamais, quoi.
Bah, non. Et sur quoi tu veux que je chouine, moi ?
Non, parce non, que t'es susceptible.
Sur la Ligue 1, sur le foot français, sur les joueurs français.
Mais je chouine pas sur...
Sur les pelouses, sur les stades, sur les ballons, sur les entraîneurs, sur les présidents, sur la Coupe de la Ligue, surtout.
Et sur nous.
Non, ça c'est pas chouiner, c'est se plaindre, c'est critiquer. Mais c'est pas ça, chouiner, je veux dire, c'est pour défendre son petit bout de gras. Et les Rennais, ils sont dans le top 3 des plus chouineurs.
Alors,
ouais, d'accord. Okay.
Écoute, Jean-Christophe, permets-moi.
C'est pas grave, hein, Jean-Christophe. Hein.
Jean-Christophe,
tu aimes
bien Chantilly en même temps, mais permets-moi quand même, Jean-Christophe, de te faire un petit rappel. Tiens, petit quiz, tu vas me dire qui a dit ça, par exemple.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Oh là là, c'est qui a dit ça?
Un de tes anciens présidents.
Cervelo, non?
Non, c'est Lelay.
Lelay.
Ah, Lelay, ouais, d'accord.
Mais elle l'avait oublié, en fait.
Attention, autre quiz. Qui a dit ça?
Verratti, pour 11 millions, Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18.
Ah oui, c'est 200 en un, ça.
Voilà.
On n'a que des amis de Chirac, nous, au président à Rennes.
Bah, le propriétaire étant lui-même un ami.
Exactement.
Ouais. Bon, assez rigolé. Le podium, est-ce que tu y crois?
Ouais, bien sûr. Bien sûr, on y croit. Ouais, moi, j'y crois. Je pense que par rapport à nos concurrents directs, je me dis que pourquoi pas l'année de Rennes cette année.
Bon, sans plus d'arguments.
Je vous dis, mon premier argument, c'est par rapport à nos concurrents directs qui, pour moi, devraient être théoriquement avant nous. Si on parle, voilà, si on se met en début de saison, on se dit, voilà, rien que par rapport au budget, des clubs comme Lyon doivent être devant nous, des clubs comme Monaco. Après, ceux qui se battent à peu près dans nos forces, c'est Lille, Saint-Etienne. Et on voit que Lyon est quand même assez loin, Monaco est loin. Et Lille et Saint-Etienne sont aussi derrière nous. Donc, je pense qu'on a une longueur d'avance en tout cas.
Bah écoute, à suivre. En tout cas, le match de demain pourrait être effectivement un match tournant de la saison. Merci Jean-Christophe.
Merci à vous.
Salut Jean-Christophe.
Salut, bonne soirée.
Non, puis bon, maintenant, en plus, les équipes, elles vont arrêter de se plaindre. Là, il n'y a plus une équipe européenne. Bon, mis à part le Paris Saint-Germain, mais eux, ils sont déjà quasiment champions de France. Lyon risque de faire que deux matchs. Donc il n'y a plus de problème de calendrier, on est d'accord. Là, ils ne vont pas se plaindre parce qu'il y a la Coupe de la Ligue pour encore seulement 4 clubs et seulement un match et la Coupe de France. Donc non, là, tout va être remis à zéro. Et c'est pour ça que ça va être une course, ça va être très serré quand même.
On va avoir une deuxième partie de saison sympa, effectivement. Alors, niveau mercato, je voulais quand même vous. Ça fait longtemps qu'on ne met plus notre jingle mercato, là. C'est le mercato, là, les gars.
Parce qu'il ne se passe rien, mon vieux.
Réveillez-vous. Moi, je veux le jingle mercato. Est-ce qu'il est prêt? Jingle mercato.
Achetez-moi 120 000 francs. La frite, elle est à 8 francs. La saucisse, à 12. Avec un coca, ça fait 30 francs. Écoute, tu peux venir déjeuner chez moi quand tu veux. Et le café, c'est moi qui l'offre. Je ne vais pas me taper pour 12 patates de merguez. Moi, ce que je fais, c'est mon pognon.
Parfois, on mettra celui-là. Parfois, on mettra l'ancien.
Bien sûr. Ouais. Ça me donne envie de revoir le film, d'ailleurs.
Ah bah quel film culte.
Ah ouais, quand même.
Bordeaux a trouvé un accord avec Reims pour le prêt avec option d'achat de Rémi Houdin. Donc Houdin, pilier du stade de Reims.
Bah, je pense.
Va partir à Bordeaux.
C'est pas le meilleur joueur de Reims.
Option d'achat estimée à 7,5 millions.
C'est pas lui, on est pas loin.
C'est Abdelhamid, le meilleur joueur de Reims. Pour moi.
Oui.
Oui, alors on va dire qu'il y en a un par ligne. Il y a Abdelhamid, il joue à Bourgardien au milieu et Houdin. Oui, non.
Cafaro, j'aime bien ça, mon joueur aussi, Cafaro.
Ils ont plusieurs petits joueurs.
Ils ont des.
Mais Houdin, c'est un bon joueur.
Bordeaux, ouais. Bah après, faut voir où il va le faire jouer parce que là, il a joué un peu partout à Reims. Là.
Ça, je sais pas. Bordeaux ne s'est pas exprimé, on ne sait pas. En tout cas, Reims veut du coup le remplacer évidemment, et ils ont un peu du mal. Là, ils étaient proches de faire signer un Slovène qui s'appelait Sporar.
Il arrive.
Mais finalement, il viendra pas puisqu'il va partir au Portugal.
Houdin.
Bah là, oui, mercato d'hiver, là.
Attends, j'avais pas compris, je suis idiot, moi, pardon.
Là, il est prêté par Reims jusqu'à la fin de la saison et option d'achat à la fin de la saison.
Hein ? J'ai pas compris.
Là, il est prêté par Reims à Bordeaux jusqu'à la fin de la saison.
Voilà.
Avec une option d'achat.
Et à la fin de la saison, Bordeaux pourra l'acheter.
Mais là, il va jouer avec Bordeaux, alors maintenant.
Oui. Il est prêté.
Ouais, mais c'était pas clair ce que t'as dit. C'est pour ça que je me suis embrouillé.
Mais c'est une option d'achat obligatoire.
Non mais ça je m'en fous, moi je voulais savoir quel maillot il allait porter là, vous m'avez embrouillé là. Vous m'avez
embrouillé. À Bordeaux.
Il va jouer prêté. À Bordeaux là, maintenant là, il change de maillot demain quoi.
Exactement.
Bon bah voilà, mais c'est pour ça je crois.
On peut même raison de me l'en penser qu'il est déjà à Bordeaux à l'heure où on parle.
Ouais, bah, j'avais mal compris parce que comme tu l'as présenté, j'ai pas compris.
Bah non, t'as pas écouté.
Et mais c'est étonnant quand même, un prêt là.
Bah c'est comme ça, ça a été dealé comme ça.
Donc c'est une option d'achat obligatoire, c'est pas possible. Ils vont pas prêter un joueur à Reims.
Ils vont pas le cash maintenant.
À Reims, ils sont 6e. Bordeaux est 13e. Ah, franchement, je vois pas en étant 6e et quand tu vois les places européennes, tu te dis Reims, bah pourquoi pas, hein, pourquoi pas rêver. Et tu perds le meilleur joueur. Donc c'est qu'ils sont sûrs de le vendre. Mm. Bah tu dis
Je te dis oui.
D'accord.
Tiens, je voulais vous signaler un transfert qui n'est pas dans le monde du foot, mais dans le monde du futsal. On n'en a pas parlé, mais c'est un événement à l'échelle du futsal en France et dans le monde, puisque le meilleur joueur de futsal du monde, le portugais Ricardinho, 6 fois meilleur joueur du monde de futsal, a signé à Paris, dans le club de l'ACCS Paris 92. Donc le gars, un grand pote de Neymar, parce que comme les Brésiliens ont un réseau futsal très important.
C'est pas le Ricardinho qui joue à Bordeaux il y a longtemps.
Non, c'est pas ce Ricardinho là. C'est un autre Ricardinho, petit Rabelais. Donc voilà, il arrive à Paris, meilleur joueur du monde de futsal. C'est quand même étonnant.
Mm-hmm.
Voilà, donc club de futsal. D'habitude, c'est les clubs espagnols qui sont les plus riches au futsal. Bah, là, les Français sont là également. Dans quelques instants, on va parler préparation physique. Bougez pas, bien sûr, restez avec nous. On va accueillir notre invité. Vous allez voir, apprendre plein de choses sur la préparation physique des joueurs, sur ce qu'ils font avec leur club et surtout sur ce qu'ils font sans leur club. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Inquiétant ou pas, on aura l'occasion d'en débattre dans quelques instants avec notre invité. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là, bien sûr, avec vous. Je vous rappelle, tiens, les affiches des demi-finales de Coupe de la Ligue, tiré au sort tout à l'heure vers 21h. Reims recevra le PSG, Lyon recevra Lille. Daniel Riolo est là, Jérôme Rotten est là. Tout à l'heure, on parle Espagne et maintenant, on va préparer physiquement Jérôme et Daniel. Non, parce que moi, je suis physiquement au top, donc j'ai pas besoin. Mais par contre, vous deux, je sais que vous avez un peu des problèmes.
Ah non, Jérôme, il est très très bien.
Comment, j'ai des problèmes.
Pourquoi tu me mets dans la
physique aujourd'hui?
Non, mais oui. Non, en ce moment, ça va pas du tout. J'ai besoin d'un préparateur physique.
Ben, ça tombe bien. Alors. Je t'avouerai que le but, c'est pas de parler de toi, de la préparation physique des joueurs de foot, évidemment. Et on va en parler ensemble jusqu'à 23h avec notre invité, Serge Niaoré, qui est là. Bonsoir.
Bonsoir, l'after.
Préparateur physique.
Des joueurs professionnels, joueurs amateurs et joueurs de centre de formation.
Très bien. Alors, déjà, comment devient-on préparateur physique? Raconte-nous un peu ton parcours avant qu'on rentre dans le.
J'ai d'abord été entraîneur dans les clubs francilien, niveau national et ligue. Ensuite, j'ai passé des formations d'entraîneur, de préparateur physique, football. Et j'ai fait aussi des formations privées avec des préparateurs qui ont des joueurs à très haut niveau.
D'accord, donc en fait, tu as un diplôme qui sanctionne tout ça. Voilà. Parlez dans le micro pour qu'on t'entende bien.
Alors, on va raconter la petite histoire qui a amené à ce que je m'intéresse, à ce que fait Serge. C'était que c'est né d'un étonnement face à ce qu'il fait. Je ne connaissais pas son métier. Pourquoi ?
Attention, tu connais le métier de préparateur physique.
Oui, mais c'est pas ça.
Classique de club.
Oui, mais c'est ce qu'il fait qui est très étonnant, que je ne savais pas. On a un ami commun qui est par ailleurs, il s'appelle Rachid, avec qui je joue au poker. Son fils est un jeune footballeur qui a 13 ans, qui aspire à devenir professionnel, j'imagine. Et il y avait Kevin Diaz qui était là aussi, donc qui a connu le système
des foot amateurs
et tout ça. Le foot amateur. Enfin, qui connaît.
Sa carrière.
Et là,
Kevin,
là, il me dit.
Respecte les carrières des autres.
Et là, il me dit, mon fils. Et je demande des nouvelles du gamin, comment il évolue, machin. Et il dit, physiquement, il faut qu'il bosse un peu plus, donc il bosse à côté. Et j'ai mis, comment, je comprends pas, il bosse à côté, il s'entraîne au club, au centre de formation et tout. Il me dit non, il y a un préparateur physique à côté et tout. Et là, Kevin rentre dans la conversation et il me dit, ouais, aujourd'hui, de plus en plus de joueurs, donc tu vas nous l'expliquer, Serge, que ce soit des pros, des jeunes en centre de formation, prennent un préparateur physique qui vient donc compléter quelque part leur formation physique à côté. Et là, je t'avoue que j'ai été sur le cul parce plein de questions se sont posées. Pour moi, je me suis dit, mais là, tu vas y répondre, je fais pêle-mêle.
Quel
est le risque pour le joueur d'avoir une surcharge de travail qui peut perturber sa formation de base dans son club? Comment les clubs réagissent à ce que tu proposes? Est-ce que c'est bien pour les joueurs ce que tu proposes?
Est-ce qu'ils dialoguent avec les clubs aussi?
Est-ce que toi, tu es en contact avec les clubs et est-ce que tes services ne les emmerdent pas finalement, ou est-ce qu'ils sont d'accord et ils te voient d'un bon œil? J'étais vraiment scié par ça, en fait. Je comprenais pas. Voilà.
Donc,
Allez, je réponds à toutes les questions.
Allez, voilà.
Déjà, donc ça veut dire que tu travailles en dehors des structures de centres de formation ou clubs.
Oui, donc les joueurs que j'ai de niveau professionnel, soit ils se déplacent vers moi sur un centre dans l'Ouest parisien qui s'appelle le Five à Besançon, ou je me déplace vers eux.
Quel joueur professionnel vient de bosser avec toi?
Ouais.
J'en ai eu, je crois que j'avais
bien sûr. Rayet Nouri.
Joueur Angers aujourd'hui.
Je me déplace en Italie vers Caramo.
Ouais.
Après, il y a plein d'autres jeunes pros qui sont
à Bordeaux. T'as pas eu Saint-Maximin à un moment?
Exactement. Ouais. Saint-Maximin, où vous avez aussi Augustin, vous avez plein d'autres joueurs que j'ai connus aussi en club. Donc aujourd'hui, ça se passe de la sorte, c'est que préalable, avant la saison, il y a des joueurs qui viennent prendre nos services dans ma structure sur une semaine pour préparer leur saison, en fait. De façon à ce qu'ils puissent arriver avec déjà certaines bases.
C'est comme s'ils faisaient une reprise anticipée personnelle. Alors, en fait.
Ça, c'est une reprise du moins, quand t'es en vacances, t'es pas totalement en vacances. Normalement, on te donne des conseils quand t'es.
Mais là, le club est censé quand même te laisser un petit programme.
Quand tu finis la saison, on va te dire, si t'as 3-4 semaines, allez, 4 semaines, parce qu'en moyenne c'est ça, t'as 4 semaines de repos, on te dit les 10-15 premiers jours, tu fais rien, pas trop d'activité physique, ça sert à rien, il faut récupérer, que ton corps récupère, et puis après tu remets en route la machine à travers du tennis dans un premier temps ou autre chose, et puis après de la course pour reprendre en effet le jour de la reprise avec quelques footings derrière toi, c'est ça.
Ça n'existait pas ce qu'il faisait à ton époque, Jérôme.
Il y en avait qui le faisaient. Rappelle-toi, Eric Carrière, on avait parlé aussi à l'époque. Ça a été un des pionniers là-dessus de prendre un préparateur physique à côté. Sinon, on a été contacté. Du moins, t'as des préparateurs physiques qui venaient à nous, que ça soit en sélection ou même en club, et qui proposaient leurs services. Après, moi, j'en trouvais pas l'utilité. Parce que en effet, et c'est là que c'est important qu'ils nous répondent sur le fait comment tu fonctionnes avec les clubs, parce que c'est ça le plus important en fait.
C'est pas les clubs qui nous démarchent, c'est bien les agents des joueurs ou les joueurs.
D'accord.
Donc ils vont nous démarcher. Pourquoi? Parce qu'il a un déficit peut-être sur l'explosivité, sur la réactivité et sur ses enchaînements techniques. Parce que moi, j'ai été coach de foot, donc ce que je fais, c'est beaucoup à trait avec les ballons. Donc on fait un travail là-dessus qui peut être préalable avant la saison ou durant l'année. Vous avez des joueurs qui se retrouvent remplaçants Donc ils ont moins de temps de jeu. Ils ont besoin aussi de quelqu'un derrière, parce que dans le club, c'est pas toujours la même chose. Vous avez des joueurs qui jouent, mais qui sont pas bons sur la lucidité pour faire des enchaînements techniques. Vous avez des joueurs qui jouent, mais qui sont pas bons dans les contacts. Et ça, ils ont besoin d'avoir quelqu'un en plus, en fait, qui peut s'occuper d'eux, focus.
C'est comme un lycéen qui prend des cours particuliers, en fait.
Tout à fait.
Mais il n'y a pas de risque, parce qu'ils ne sont pas censés avoir un programme dans le club.
Ah, normalement.
Ou alors,
non,
ça veut dire que dans le club, ils ne travaillent pas assez, ou il y a des manques, parce que tu es censé combler un manque.
On ne pourrait pas dire ça. C'est que les clubs travaillent bien. Mettons, chaque joueur a ses capacités, ses manques. Donc, forcément, c'est généralisé ce qu'ils font en club.
Oui.
Chaque joueur se connaît. Il va savoir qu'il a besoin, à un moment donné, d'avoir un boost. Donc, il va faire appel à un préparateur physique.
Ouais.
Il va le faire déplacer.
C'est une individualisation de la préparation. Ce qui, après tout, n'est pas complètement bête, parce qu'on peut se dire que le programme général qui est donné à un joueur dans un club, peut-être, il convient pas à tout le monde, à toutes les musculatures, à toutes les physiologies. Toi, tu fais attention à ça. Tu bosses sur les morphologies.
Exactement.
Si le gars a besoin de plus de ça, de plus de
Exactement.
Ça, tu fais du sur-mesure, quoi.
Dans la charge de travail, oui, on va faire attention à physiologiquement le physique du joueur, ses capacités à pouvoir accélérer sur tant de choses, forcer sur tant de poids. Tout ça, c'est important. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'il a déjà fait aussi en club. S'il a fait des courses, par exemple, répétées, nous, on peut pas faire ça. On va travailler sur d'autres choses, comme l'équilibre du joueur, comme je vous disais tout à l'heure, la force, sa résistance, c'est des points qu'on peut travailler, ça. Mais il y a d'autres choses, comme faire beaucoup de courses répétitives, ça reste compliqué. Après, il y a beaucoup de choses que moi, dans ma structure, on fait avec le ballon. C'est pour ça qu'il y a pas mal de joueurs qui aiment travailler avec des préparateurs.
Ça, normalement, ça serait. Je te coupe, excuse-moi, mais ça, c'est la logique. Et moi, je me suis battu comme ça sur la fin de ma carrière. C'est que les préparateurs physiques qui venaient souvent de l'athlétisme et qui découvraient le football, en fait, te faisaient bosser tout le temps sans ballon. Et je pense que la base, le travail physique, tu peux aussi, comme tu le dis, le faire avec le ballon. Et ça, je comprends pas encore que les préparateurs physiques dans certains clubs, même dans des grands clubs, ne mettent pas plus en avant le ballon.
Il y a des modes. On se souvient. Attends, juste deux secondes. Il y a des modes là-dessus. On se souvient tous de ce préparateur physique italien qui s'occupait de la Juve à l'époque, où les mecs ils disaient, ah, c'est génial, on arrive, on est en pleine bourre, mais ils n'avaient pas touché un ballon pendant un mois en début de saison. Comment il s'appelait, Ventrone, là. T'en souviens de celui-là, Daniel? Et Zidane disait, c'est génial, bon, je vomis quand je fais mes trucs, mais après, je me sens bien toute la saison. Et les mecs, ils touchaient pas le ballon une fois.
Mais ça,
c'était la mode à l'époque.
Ça, c'est la préparation estivale. C'est la foncière. Donc, moi, c'est vrai que je pense que sur la période que tu disais, là, avant les reprise de l'année, tu vois, où tu entames ta préparation, où il faut arriver quand même avec une certaine forme, il faut pas arriver sans rien faire. Je pense qu'il y a des joueurs, en effet, tout seul, c'est trop compliqué de suivre le planning qui est mis par le club. En plus, le planning, c'est généralisé, donc en fait, c'est tout le monde a le même planning. Tu fais deux fois 20 minutes de footing le premier jour, tu fais une fois 45 minutes le troisième jour, et puis ainsi de suite. Donc en effet, là, je pense que ça, c'est très utile, et c'est bien qu'il y ait plein de joueurs qui te fassent appel à toi ou à d'autres, parce que là, tu vas individualiser le travail pour donner un maximum de chances aux joueurs de réussir sa prépa.
Au courant de tout le programme que le mec fait avec son club, forcément.
Par exemple, moi, lorsque je dois voir un joueur, il va me donner son programme club. Ça veut dire l'heure de séance. Moi, je vais demander les contenus. De là, moi, je vais établir un travail. Parce que, par exemple, sur un mois, je vais voir un joueur peut-être trois fois dans le mois. Je vais rester où il habite pour travailler avec lui trois jours. De là, je vais rester trois, quatre jours avec lui, lui redonner un peu un boost par rapport à ce qu'il a besoin et le laisser. Et je fais pas que ça, c'est-à-dire que je vais regarder aussi ses matchs. Je vais voir s'il se déplace pas bien, s'il a pas de réactivité. En plus que son club, en fait, c'est pas pour gêner le travail du club, c'est plus pour apporter quelque chose plus. Et lui, il a besoin aussi que quelqu'un derrière lui ait une expertise pour qu'il soit mieux par rapport à son coach et son équipe.
Alors Serge, comment te voient les clubs? Est-ce qu'ils te voient comme un mec qui, en gros, fout la merde dans la préparation physique ou comme une vraie aide?
En fait, c'est un peu en catimini parce que...
Ça dépend.
À Parme, par exemple, j'ai déjà été discuté avec des préparateurs physiques du club.
Préparateurs physiques du club, hein.
Bien sûr.
D'accord, ok.
On n'est pas en France. J'ai parlé avec eux, j'ai montré ce que je faisais. Ils ont trouvé ça...
À Parme, en Italie?
Oui, oui.
Ah d'accord, ok.
Ils ont vu ce que je faisais et ils ont trouvé ça intéressant. Ils m'ont demandé, quand je fais un travail avec le joueur, si je peux le renvoyer par mail, J'ai trouvé ça très professionnel. Ça, le fait qu'il discute avec moi, ça veut dire que nous sommes en symbiose par rapport à ce qu'on
Oui, il rejette pas ton.
Parce que tu t'occupes de joueurs qui sont à Parme.
Ben, bah, oui. Caramo, dont tu parles.
Ah oui, pardon. Ouais, Serge, ouais. Oui.
Donc, ouais, ça veut dire que là, ça se fait de concert avec le club et t'es pas vu comme à pestiférer, quoi.
Exactement. Maintenant, en France, ça reste compliqué. Oui, ça reste compliqué parce que, si quand vous avez un joueur, qui va peut-être, il va jamais demander à travailler en plus avec un préparateur du club. Moi, j'ai rarement vu ça. Donc, eux, ils préfèrent faire appel à d'autres personnes qui sont disponibles, qui sont, on va dire.
Un prof particulier.
Voilà, qui sont sur les réseaux, à qui ils ont. Parce qu'il faut avoir une confiance aussi. Il faut.
Et là, tu parles dans l'année.
Oui, oui.
Tu parles pas que sur la saison.
Non, il bosse au quotidien là. Ouais.
Oui, oui, c'est
mais c'est ça qui est incroyable. Alors comme tu dis, c'est peut-être propre à la France par rapport au contact et aux relations que t'as en Italie par exemple. Mais je me mets dans la peau du joueur. Le joueur par exemple qui en manque de temps de jeu, qui joue pas. Tu vois, qui se sent inutile, ça arrive. Je comprends pas encore comment ça peut exister. Et c'est pour ça que tu bosses, et tant mieux, hein, qu'il y en ait encore. Mais comment ça peut exister qu'un staff technique laisse un joueur de côté, du moins qui se plaint de son manque de temps de jeu, ce qui est normal, et qui le laisse physiquement s'écrouler. Parce que quand tu joues pas, rien ne remplace la compétition. On est d'accord.
Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
La moindre des choses, c'est de d'individualiser le travail avec ces joueurs-là.
Ah, d'accord.
Et donc, s'ils le font pas,
d'intensité à l'entraînement,
automatiquement, tant mieux pour toi, Serge. Ça te fait bosser.
En fait, tu crées une activité qui est, vous êtes pas beaucoup à faire ce que tu fais, alors. C'est nouveau comme activité.
Ça commence à se répondre parce que le besoin existe, en fait. Comme il vient de dire Jérôme, c'est qu'il y a des joueurs qui sont, on va dire, des fois en méforme, on les fait pas trop jouer. Le week-end, vous savez, un joueur maintenant qui est en Ligue 1, il joue pas en réserve.
En plus, ouais.
Il joue pas en réserve. Il faut s'occuper de lui différemment. C'est que lui, il sait qu'il ne joue pas. Des fois, ça dure 3 semaines.
Ouais, parce qu'avant, en remplaçant, ouais, il pouvait jouer avec la réserve.
Voilà.
Aujourd'hui, c'était systématique.
Aujourd'hui,
non.
Ouais. Et tout ça. Maintenant, je sais qu'en Angleterre, à Liverpool, par exemple, ils ont un coach pour 5 joueurs.
Ouais.
Là-bas, moi, je connais un préparateur.
Ils ont un coach pour 5 joueurs. Redis-moi ça, c'est-à-dire.
Oui, c'est-à-dire qu'ils ont
5 joueurs.
Ils ont un prépa pour qu'il va s'occuper de 5 joueurs.
Ah, tu vois, l'effectif est découpé en petits bouts et par groupe de 5.
Et 5, tu peux t'en occuper.
Ah, mais
occuper.
Tout ça, c'est des trucs nouveaux qu'on ne sait pas forcément. Ah, ça m'intéresse.
On en viendra sûrement en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Klopp, il ne laisse même pas un temps d'un préparateur, d'un joueur travailler parce que les gars, ils ont un emploi du temps très chargé. Et puis, il y a du monde qui s'occupe d'eux. C'est aussi ça.
C'est-à-dire que tu veux, on est un peu sous-staffé en France par rapport à ce qui se fait à l'étranger?
Après, ça dépend des ambitions que t'as, quoi. Liverpool, ils ont l'ambition que les joueurs soient taqués en permanence, quoi.
Je ne pourrais pas encore dire ça. C'est-à-dire que Liverpool, comme ils disent, ils ont un emploi du temps très chargé.
Oui, mais faut dire un truc pour les joueurs qui savent pas ça. C'est qu'en Angleterre, comme en Espagne, par exemple, le joueur, il arrive le matin à 8h, il repart à 18h. C'est-à-dire qu'il reste toute la journée au club, avec un programme. Alors qu'en France, t'as plutôt tendance à arriver à 8h, et puis à 13h, t'es barré.
L'après-midi, va au shopping.
Non, mais c'est la vérité, ça, quand même. C'est...
Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai.
Non, mais Jérôme.
Non, mais ça, c'est pas vrai.
Jérôme,
comment ça, c'est pas vrai?
Okay, c'est pas vrai pour le shopping.
Non, mais arrêtez vos conneries. Ne dites pas que le joueur n'en s'entraîne que le matin et que tous les après-midi sont libres. C'est pas vrai. Une semaine classique, je vais te dire. Déjà, quand tu joues la Coupe d'Europe, bien sûr que tu vas pas t'entraîner 2 fois dans la journée. Voilà. Mais pour les clubs qui jouent pas la Coupe d'Europe, il y en a beaucoup. Tu connais ton club, là, Strasbourg. Ah, ben quoi, qu'en début d'année, ils ont joué la Coupe d'Europe.
Ils nous ont plus d'ailleurs. Le seul club qui a gagné les matchs en Europe, c'est rien, je te signale.
Mais le classique, c'est, allez. Le match le samedi soir, le décrassage, s'il y a décrassage, parce que des fois, en effet, tu peux faire sauter le décrassage quand t'as un bon résultat. C'est emmerdant pour le joueur qui a pas joué ou peut jouer, parce que là, il se retrouve le samedi.
Il faut rien.
Il faut rien. Même le vendredi, parce que le vendredi, à veille de match, tu fais pas grand chose. Donc le vendredi, le samedi, le dimanche, voire le lundi, et journée de repos. Parce que quand t'as
des jours sur 7 où il faut rien.
Ça, c'est problématique. Mais ça arrive pas tout le temps. Mais sinon, la semaine classique, c'est décrassage le dimanche. Repos ou entraînement, ouais, un petit
décrassage pour ceux qui jouent pas, c'est pas assez.
Bah si, non, mais eux ils font autre chose. Ils se décrassent pas, ils font un entraînement, mais bon, les entraînements avec les 6-7 joueurs qui ont pas joué, en général, même si t'essayes de pousser la machine, en général tu la pousses pas un max. Après t'as un entraînement le lundi après-midi. pour reprendre tranquillement la semaine. Et là, en effet, tu as deux entraînements le mardi et souvent deux entraînements le mercredi, plus un entraînement le jeudi et un entraînement le vendredi.
Donc, c'est ce que je te dis, le lundi et le jeudi, tu n'es pas de 8h à 18h.
Le lundi, tu es à 48h du match, Gilbert. Tu ne peux pas non plus. Bon, je sais que tu ne sais pas ce que c'est, un match de haut niveau. Mais ça tire. Quand même.
Daniel.
La machine, elle tire. Non, mais c'est vrai. Au bout de 48 heures, demande à Daniel, quand je joue au tennis contre moi, il est au taquet. Donc, 48 heures après, il est cramé. Regarde aujourd'hui. Regarde la coupe de cheveux qu'il a.
Justement, je suis trop en forme.
Serge Niaoré, tu confirmes ce que dit Jérôme là ?
Non, c'est tout à fait. Moi, je confirme aussi parce que on peut pas toujours. On peut pas toujours cramer les joueurs en fait. C'est que dans la gestion, il y a des jours où on peut faire certaines choses, des jours où on peut pas faire certaines choses en fait. Et ce qui est important aussi dans le football en lui-même, c'est qu'on est sur des statistiques. Donc, si vous avez un joueur, parce qu'on fait du physique, c'est vrai, mais il faut aussi de la technique. Si on a des joueurs qui ont des déficits sur l'ajustement de passe, donc nous, on va faire un travail.
Ah, tu fais ça aussi? Tu vas faire un ajustement technique?
Bah oui, parce que c'est ça mon boulot. Moi, je suis pas, de base, je suis pas préparateur physique. Moi, je suis un coach.
Et comment t'arrives? Tu te déplaces, tu vas voir, je sais pas, mais le mec, il est à Nice. Toi, t'es à Paris. Il dit, j'ai besoin, alors c'est quoi? C'est une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, d'un complément. Tu prends l'avion, donc bon, le joueur te paye à titre individuel forcément.
Ouais.
Tu y vas et vous louez un terrain l'après-midi et vous bossez.
Ça se passe de la sorte. Je vais à Nice aussi. Ça m'arrive d'aller à Nice. Donc il y a des joueurs qui ont des maisons qui sont assez grandes. Ils ont des jardins.
D'accord.
Donc tu travailles dans le jardin. Uh-huh. Et on va aussi dans les centres fermés de foot à 5.
Ouais.
Pour travailler.
Tu loues une heure et tu.
Voilà.
Et
mais moi, je me souviens il y a quelques années de Cabaye qui fait ça quand il était en Angleterre.
Justement. Le préparateur de Cabaye, c'est un de mes formateurs.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, j'ai fait une formation avec lui quand j'ai arrêté de coacher en équipe. J'ai appris des choses. Mais lui, c'est pas un technicien. Moi, j'ai la technique pour apprendre à enchaîner les ballons, à réceptionner les ballons.
Ça, c'est le truc que t'as en plus, quoi. C'est voilà. Le côté foot, quoi.
Exactement.
Et à Lyon, c'est très répandu. C'est Gonalon qui avait été l'un des premiers à l'époque à avoir un préparateur physique en dehors. Et on en avait parlé d'ailleurs avec Edouard G à plusieurs reprises. Et ça a été un peu la mode. Ah ben, il y a un autre truc quand même.
Il est sur la fin, le prépa de Cabaye, là. Parce que j'ai pas trouvé en forme, Cabaye.
Il est trop fort. Arrête. Non, écoutez, c'est.
Heureusement qu'il t'a pas formé maintenant.
Si tu prends Debuchy aussi, Mvila.
Si tu pouvais lui refaire une petite formation, là, au prépa.
Non, aujourd'hui, bon. Ça
il est pas magicien, hein, il est préparateur.
C'est resté une base, en fait. Ce préparateur a fait des formations, il a formé des gens. Il avait. Bah attention, parce que Jérôme, le monsieur dont tu parles, il a Sadio Mané. Aujourd'hui, il ne le touche pas beaucoup. C'est vrai, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps.
Il vaut mieux pas. Hein. Qu'il ne le touche pas. Alors.
Le préparateur physique, il s'occupe de Sadio Mané.
Oui.
Mais Sadio Mané, moi, comme tu me le dis comme ça, j'ai envie de te dire, mais il a besoin de rien à côté. À Liverpool, il lui donne tout.
Oui, mais qui te dit pas que c'est parce qu'il fait des choses qu'il est comme ça?
Oui, exactement.
Et Cristiano, alors
justement, il faut. Tu me dis qui te dit, mais dis-le-moi alors. Parce que.
Bah, il te dit. Il vient de te le dire. Qui bossait avec ce mec-là.
Attends. Cristiano Ronaldo qui fait des trucs en plus en permanence chez lui. Il a un préparateur physique à lui, Cristiano.
C'est sa femme.
Eux, ils vous le montrent, en fait.
Que ça soit. Et tu les vois les deux sur
l'image. Je suis sérieux.
Bah, nous aussi.
Cristiano, on le sait, même un jeune qui joue à 12 ans, 13 ans, il sait que Cristiano a quelqu'un avec lui qui le fait faire du sport. On voit aussi Karim Benzema, il fait des enchaînements techniques avec un préparateur physico-technique.
Lui aussi, il a un préparateur.
Bien sûr.
Donc, on va dire que c'est la majorité des grands joueurs ont un mec à côté.
Mais c'est forcé. Parce que aujourd'hui, vous-même, lorsque vos enfants vont à l'école, il y a bien des personnes qui vont faire des cours particuliers en plus pour que l'enfant soit plus performant à l'école, dans le suivi. C'est important parce que demain, quand le joueur ne joue pas, s'il a quelqu'un, il y a toujours quelqu'un derrière lui, ça le booste, on le suit. Ça permet que demain, quand on va avoir...
Il faut que le joueur soit assez volontaire pour faire la démarche et contacter des mecs comme ça.
C'est là où j'en viens. Mmh. C'est que moi, j'ai des joueurs qui me contactent que ponctuellement. C'est-à-dire qu'ils vont me faire appel seulement parce qu'ils ont besoin.
Tu veux dire qu'il n'y a pas un suivi?
Non, il y en a qui sont sans suivi.
Ah, il faudrait qu'il y ait un suivi pour que ce soit efficace.
Exactement. C'est pertinent ce que tu viens de dire. J'apprécie vraiment. C'est que moi, j'aimerais pouvoir suivre des gens toute l'année. D'autres sont pas comme ça, c'est qu'ils vont venir vous voir que pré-saison estivale
ou hivernale. Ou alors sortie de blessure ou voilà. Comme ça.
Parce que connaissant son corps et ses besoins, il va te faire appel parce qu'il sait qu'il est moins bon.
Ouais, mais comme tu dis, si en France les entraîneurs bloquent un peu et voient pas ça d'un très bon œil, forcément le joueur il est pas.
Mais attends, juste moi.
Si tu
mais moi je comprends les clubs. Hein, plus. Parce que moi je suis président d'un club. J'investis, je sais pas combien sur un joueur. Bon, je lui donne un gros salaire. Je paye la structure d'entraînement, donc je paye l'entraîneur, je paye le préparateur physique, je paye le centre d'entraînement.
Mais si le joueur il a des manques, Gilbert,
peut-être que mon mec en faisant des cours particuliers pour schématiser. Imagine, il se blesse.
Non. Ah, mais là, oui, là, c'est un vrai problème.
Mais c'est la carrière.
Imagine, toi, ton fils, tu payes l'école, tu payes tout, machin.
Oui,
mais il a des manques.
Tout à fait.
Laisse-moi le l'activité physique.
Tu prends un prof particulier.
Là, on va pas faire des
maths. Mais il se trouve que le prof particulier, c'est pas le club qui le paye, c'est lui tout seul. C'est ton fils qui a gagné l'auto, il peut même se le payer tout seul.
Mais
tu vas pas dire non.
Il va pas faire une fracture du cerveau. Alors que là,
bien sûr que tu peux te faire une fracture du cerveau.
Il y a un facteur que vous oubliez. Alors, je veux bien que les présidents, ils soient en panique ou quoi que ce soit. Mais déjà, que les présidents, parce que quand Serge nous explique, et je te dis, il y a pas que Serge, moi aussi, je les ai vus et je l'ai vécu. Quand tu vois que les staffs s'élargissent dans les clubs de Ligue 1, on va parler de Ligue 1,
et
qu'ils sont quand même pas capables de individualiser le travail physique de certains joueurs.
La piste.
Non, mais que déjà que le président, il s'en prenne déjà à ce staff-là. Après,
la piste, c'est que des mecs comme Serge, ils s'intègrent des clubs pour faire le truc spécifique.
Exactement. Mais de toute façon, c'est le but. Et puis en plus de ça, où là, je vais aller plus loin, c'est que le sportif de haut niveau, et c'est pas que propre au football, il est en général superstitieux. Donc quand il y a quelque chose qui marche une certaine période, là on prend le cas de Sadio Mané. Sadio, il bosse pas depuis 6 mois avec ce mec là, hein. Depuis pas mal d'années.
Exactement.
Il vit une année dernière la meilleure de sa carrière. Certainement qu'il fait beaucoup de récupération et ils échangent plus que du travail en plus, parce que avec Klopp en effet, il doit très bien travailler. Mais il est toujours là. Il est avec lui, il l'accompagne parce que mentalement, c'est important pour lui d'avoir ces hommes-là. C'est comme, on en revient tout à l'heure à ses agents, tu as une structure autour de toi en général. Le sportif, il se construit pas tout seul, il se construit à l'encadrement familial avec un agent et avec des gens comme Serge ou autres qui peuvent les aider. Et c'est ça. Et les présidents de club, je suis désolé, ils doivent se mettre ça dans la tronche. S'ils sont déçus ou contrariés,
oui,
parce
mais
que.
Les clubs, il faudrait.
Attends, il faut qu'on fasse une pause.
Ils étoffent les staffs. Mais comme ils veulent pas le faire parce que c'est des coups, top. Ça laisse une porte ouverte pour des gens.
Dans quelques instants, on revient, on continue le débat. Richard au 32-16 veut intervenir. Bougez pas, l'after revient tout de suite. N'oubliez pas l'Espagne juste après 23h avec Fred Hervé. Là tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Jérôme Rantaine, Daniel Riolo et Serge Niaoré, préparateur physique, entraîneur de foot, donc qui nous explique la préparation des footeux en dehors des structures d'entraînement. On apprend plein de choses avec Serge. Petite info quand même, petit rappel, parce qu'on pose la question sur Direct Studio, des Rémois me disaient alors comment ça se passe lundi, est-ce qu'on peut venir? Bah oui, lundi l'after sera à Rennes, donc de 21h à minuit. Pourquoi j'ai dit Rennes?
Parce qu'on a parlé de Rennes, parce que tu perds la tête.
Merci de me corriger, Jérôme.
T'es trompé.
À Reims, bien sûr, parce qu'on ira peut-être aussi à Rennes, c'est pour ça. Mais on est à Reims lundi, au restaurant Le Tablier, au centre-ville de Reims. Donc vous êtes nombreux, c'est ouvert à tout le monde. Donc ne vous en faites pas, vous pouvez venir, rentrer, boire un coup, manger un morceau, s'il n'y a pas trop de monde, j'espère. En tout cas, venez, lundi, on sera là, Daniel sera là, Jérôme sera là, Kevin Diaz sera là, Julien Cazard sera là, à Reims lundi, de 21h à minuit, au Tablier. Donc c'est la 4e étape de notre after tour. D'ailleurs, si vous êtes le représentant d'un groupe de supporters d'un club de Ligue 1, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on vienne chez vous, vous nous envoyez un petit message avec le hashtag after tour, si vous voulez qu'on vienne.
Si Monaco pouvait envoyer un message.
J'ai reçu quelques invitations.
Qu'est-ce que tu fous avec Monaco là? Je crois que t'avais tout le monde à la bonne là-bas.
Explique-moi, excuse-moi.
Bien sûr, mais on va y aller au printemps.
Mon petit Jérôme.
On va y aller pour la semaine du tennis.
Mon petit Jérôme, je m'excuse.
Voilà, comme ça, on se fait le petit tennis avant.
Mais il y en a un qui a été plus efficace.
Attends, t'en fais pas.
Il y en a un qui a été plus efficace que toi, mon coco.
Hein?
Fred Piquion.
Quoi, à Monaco?
Ils ont contacté Fred Piquion.
Mais...
À Monaco?
Oui.
C'est horrible pour toi, Jérôme.
Mais oui, alors d'accord.
Oui,
mais vous voulez aller manger où? Au McDo à Monaco? Non, mais je sais pas. Non, mais voilà, il faudrait savoir. Mais allez-y, hein. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, ça va être à l'hôtel d'Ermitage. Ça va être top.
Bon,
et en plus, avec entrée au country, tournoi de tennis. Voilà. Hop, plus casino le soir obligé. Écoute. Ouais,
le jour où tu me fais jouer au country.
Fred Piquion a aussi promis un grand spectacle.
Écoute, franchement.
Fred Piquet, un premier spectacle.
Bah, Fred, attends, Fred, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau, vous croyez quoi, les gars?
Ah, juste du spectacle qui est passé à la playlist.
Niveau,
alors.
C'est
sur sa playlist, ce spectacle.
Mais c'est quoi ton barème sur le haut niveau?
T'as déjà voyagé avec Fred en voiture?
Serge Diaoré.
Tu m'as déjà dit.
Attends.
Mais juste pour.
Non, attends, c'est moi qui pose la première question. Comment ça coûte?
C'était pas une question.
Combien ça coûte?
De prendre.
Bah, comment ça coûte? Si moi j'appelle Serge Diaoré, je suis pro, comment ça coûte?
Pour prendre qui en charge?
Bah, je sais pas, je suis Saint-Maximin, tiens, que t'as eu.
Bah, si c'est une prise en charge annuelle, généralement, ce genre de joueur, ça va lui coûter entre 20 et peut-être 50 000 euros l'année.
Sur l'année?
Ouais. C'est comme ça que ça coûte.
Bah, il faut avoir des moyens, quoi.
Moi, je
sauf que quand oui, tu après, fais un gamin de 13 ans, tu lui prends beaucoup moins.
Bah, un gamin de 13 ans, ça va lui coûter peut-être 300 euros l'année.
Parce ça va.
C'est ça.
Tu l'adaptes en fonction du public.
Exactement. On peut pas demander.
Oui, bien sûr. Bah oui.
Vous voyez ce que je veux dire?
C'est moi, pour 100 balles, tu peux me remettre d'aplomb un peu, parce que j'ai un peu des soucis.
Non, attends, restons sérieux deux secondes. Au PSG, il y a un truc quand même qui se passe. Au PSG, notamment les Brésiliens, ont tendance à venir avec une structure, mais intégrée au club.
Par exemple, même les kinés, même.
Voilà, ils viennent avec leur kiné, ils viennent avec un gars.
Je sais. Ouais.
Voilà. Alors, Thiago Silva, c'est lui qui a initié ça, les autres se sont un peu engouffrés et tout. Ce que tu décris en Angleterre ressemble un petit peu à ça.
Tout à fait.
On travaille par petits groupes. Là, au PSG, Thiago Silva, le mec qui s'occupe de Thiago Silva, il va aussi s'occuper d'un autre Brésilien parce qu'ils ont des affinités, etc. Bon. Est-ce que ça, c'est pas une piste que les clubs français devraient un peu creuser pour être plus performants, quoi?
On va tomber dans une adaptation des clubs, en fait, par rapport à ce fléau. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir éviter que chaque coach, chaque joueur vienne toujours avec quelqu'un qui puisse s'immiscer dans leur travail.
Ouais.
Donc je pense qu'ils vont mettre en charge une personne, pour, comme on disait tout à l'heure, Liverpool, peut-être pour 5 joueurs, pour éviter qu'à chaque fois il y ait quelqu'un d'autre qui rentre dans le travail, même si ça bonifie. Hein. Mais je pense qu'ils vont y venir pour éviter que.
Les clubs accepteront ça. Si c'est intégré, bah oui.
Si c'est intégré.
Mais vous savez, si je peux tutoyer.
Bien sûr.
Ces joueurs dont tu parles, ils ont un certain. Une zone renommée. Donc, eux peuvent venir
c'est
avec.
Plus facile.
C'est plus facile. Ouais. On n'est pas sur un inconnu qui vient se dire moi, je signe chez vous avec mon préparateur ou sinon, je ne signe pas. Voilà. Alors, aujourd'hui, Thiago Silva, moi, je connais des gens qui sont dans le groupe. Ils travaillent avec des personnes, mais ça fait longtemps qu'ils sont avec. Di Maria, par exemple, il fait du travail. Il n'a pas de préparateur, mais il est listé par rapport à un travail que son préparateur lui donne ou ainsi de suite. C'est des professionnels. Des fois, ils ont besoin.
Donc, ils ont, même au PSG, à Di Maria, il a son petit programme individuel à lui qui va faire en plus ou à côté en permanence.
Parce qu'il connaît son corps. Il sait ce qu'il a besoin. Maintenant, vous avez des professionnels qui ils sont professionnels, mais ils n'aiment pas trop travailler. Quoi. Ils sont suffisants. Parce qu'ils se disent qu'avec leur qualité, ils feront des différences. Mais comme il disait tout à l'heure
Daniel,
c'est qu'on a besoin d'un suivi annuel. Pour savoir quand faire récupérer, quand faut booster, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne fais pas que venir faire courir les gens. Hein. Je vais regarder les matchs.
Des one-shots, ça sert à rien.
Voilà, ça ne sert à rien. Je vais regarder les matchs, je fais un retour sur match, je discute avec le joueur. J'attends qu'il soit réceptif aussi pour ça. Comme je connais aussi, je me permets de connaître aussi le football. Je vais lui dire pourquoi sans m'immiscer.
Si tu demandes à certains joueurs pourquoi ils n'ont pas couru, tu vas le demander à tout le monde en Ligue 1.
Il est con, ce
mec. Non, voilà, au niveau des choix de jeu, des fois, comme tu disais tout à l'heure, les courses et tout ça, la précision de ses passes, les orientations, parce que aujourd'hui, moi, j'ai travaillé au PSG en tant que formateur.
Tu arrives à adresser les pieds alors?
Non,
parce que la précision dépasse si le pied.
Non,
il est...
tout à fait, j'ai beaucoup de travail sur la technique, qui sont beaucoup, beaucoup axés sur la technique.
Serge, en tout cas, merci d'être venu nous expliquer tout ça.
Merci. Je vais revenir sur la préparation physique, parce que qu'est-ce que tu penses que Cyril Moine penserait de tout ça, Jérôme?
Cyril Moine?
Oui.
Bah, il s'arrache les cheveux déjà qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc, mais Cyril, il est affilié à Vaïd.
Il n'est plus avec Vaïd, il est en équipe de France maintenant, Cyril Moine.
Ah oui. Oui,
juste pour un dernier mot, si tu devais qualifier globalement la préparation physique de nos clubs français, tu dirais qu'elle est très bonne, moyenne, mauvaise. Qu'est-ce que tu dirais?
Non, c'est une bonne préparation. Seulement, je ne pourrais pas te dire le contraire. Seulement, c'est que chaque joueur, physiologiquement, il a ses capacités et il a aussi ses manques. Mais tant que, même si le club cible ses manques, est-ce qu'ils sont à même de pouvoir travailler spécifiquement avec le joueur, que ce soit sur le plan technique et physique? C'est pour ça qu'on a besoin aussi de personnes qui sont habilitées à pouvoir faire travailler les joueurs.
Voilà. Serge Yaoré, merci d'être venu.
Merci Serge.
Je vous remercie, je vais vous offrir un maillot chacun.
Oh là là.
Ah, il veut pas te faire courir Daniel, mais par contre tu vas t'équiper, ça c'est quand même sympa.
Moi chaque année je fais un tournoi avec mes joueurs justement de centre de formation et on vient de faire un tournoi au mois de décembre et j'ai offert un maillot à mes joueurs. Donc je vous offre.
Ah les mecs dont tu t'occupes, tu leur fais un tournoi. Ah,
d'accord. C'est le petit cadeau de Serge. Bah écoute, merci beaucoup.
Voilà.
Merci Serge. Tiens, ça me permet de vous faire un petit
extra large pour Daniel.
Le petit teasing habituel. Vous le savez, c'est le jeu de la rentrée. On a encore des cadeaux à vous offrir, des iPhone 11 et des consoles de jeu. Si vous voulez participer pour gagner ça, vous envoyez RMC par SMS tout de suite au 732-16. RMC par SMS au 732-16. Dans quelques instants, l'Espagne. Fred Hermel va tout nous raconter de la Super Coupe d'Espagne. C'est tout de suite dans l'After.
RMC, 21h30. L'Afterfoot.
At the Bank of Santander, they've created Stan, a smart bot that can predict the future of remortgaging.
All right, Stan, will my mortgage rate go up?
1955 was the last time Newcastle won the cup.
No, and try not to mumble.
Playing, let's get ready to rumble.
Meanwhile, at Santander, they can't predict your future, but they'll help secure it with great mortgage rates fixed for up to 10 years. See what's possible at Santander.
Early repayment charges apply. Lending subject to status and criteria. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.